Merci, bonjour tout le monde. Je suis là par une série d'événements d'hasard. Il y a 54 ans, mon père a rencontré ma mère. Pas un événement d'hasard ou imprévisible. Je suis né en Angleterre. Je fais une thèse en biochimie. Je suis parti. J'avais une copine américaine, vraiment pour vous dire tout. J'ai parti en postdoc aux États-Unis, où la copine américaine m'a quitté. Et j'ai rencontré une Française qui m'a amené à Paris. Je postulais pour des postdocs, j'ai postulé à six laboratoires où Moshe Yaniv m'a sélectionné. Et donc, je travaillais au quatrième étage du bâtiment Fernbach, dans le même palier que Bernard. Et donc, pendant 10 ans, j'ai pris l'ascenseur avec Bernard. Après, par hasard, je suis devenu professeur à l'université Paris Diderot, qui vient de changer son nom, en fait. Paris Diderot vient de fusionner avec Paris Descartes pour mettre 5 et 7 ensemble pour devenir l'université de Paris. Et je dirige le magistère de génétique et master international de génétique, où David était un de mes étudiants. En fait, David fait, je crois, un stage en licence, oui, un stage d'observation en licence dans mon laboratoire. Il y a 10 ans, je montais un UMR CNES Paris Diderot qui s'appelle UMR, avec un chiffre hasardeux, 7216, mais qui est épigénétique et destin cellulaire, qui est par hasard, vraiment par hasard, dans le bâtiment Lamarck, sur le campus de Paris-Rive-Gauche. Je suis membre senior de IUF et je dirige depuis 8 ans. Un laboratoire d'excellence, un LabEx, qui s'appelle Who Am I, qui est une tentative interdisciplinaire d'amener ensemble les biologistes avec les physiciens, les chimistes, les mathématiciens et les philosophes autour de questions d'identité. Et donc, j'ai pratiqué pendant 8 ans maintenant les difficultés des discours interdisciplinaires. Et c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation de venir. Ici. Et donc, je remercie Marie-Christine, que je n'avais pas rencontrée, pour l'invitation de venir, parce que je ne travaille pas sur le hasard. Donc, pour me préparer un peu, j'ai parti en vacances, donc je suis revenu de vacances juste avant. Et donc, je trouvais chez moi, chance, nécessité, le hasard est la nécessité. Malheureusement, le seul copie que j'avais est en anglais. Donc ça, c'est. Et vous voyez, j'avais pas lu depuis 20 ans, donc il y a le ticket de métro dedans, donc qui montre un peu que voilà. Et donc j'ai lu pendant des vacances. Donc merci, j'avais pas veux lire. Donc je vais citer. Donc les diapos sont en anglais. Je m'excuse. J'ai un français un peu approximatif, mais. On m'a même corrigé une faute de grammaire ce matin, donc merci. Donc j'ai quelques citations de Monod en anglais, malheureusement, parce que mais j'étais frappé à quel point Monod a une vue déterministe du monde. Et donc, dans ce livre qu'il a publié en 71, que j'imagine tout le monde a lu à l'époque, et peut-être ça fait un moment que vous n'avez pas lu. Et donc, ils voient le vivant comme vraiment des machines déterministes. Et comme des machines chimiques. Et que toute cette chimie contribue à l'élaboration des cellules. Et donc, juste pour te dire, pour la division cellulaire, sur une des pages, il dit que le rêve, d'après François Jacob, qui cite, est de chaque cellule est de devenir deux cellules. donc j'étais frappé par ce déterminisme. Donc, le hasard pour Monod Si j'ai bien compris, c'est que cette séquence de l'ADN qui donne les séquences de protéines est relativement aléatoire, d'origine aléatoire, même si à partir de l'ADN, on peut prévoir, on peut prédire la séquence de protéines, plus, sans erreur, mais à partir de ce protéine, comme vous avez vu hier, on ne peut pas prédire la structure. Et même si on ne peut pas déduire la structure, on ne peut pas prédire la fonction. Donc la fonction, la nécessité de fonction sélection, ce hasard de séquence, si j'ai bien compris. Voilà, donc je vais revenir à Mono tout à l'heure, mais on m'a demandé de parler de, je crois que c'est pour ça que je suis là, de parler de l'épigénétique. Et comme vous avez vu hier, c'est que l'épigénétique, c'est un mot très à la mode. Il est partout et chacun, c'est un mot que David a justifié, que chacun peut utiliser comme il veut. Je ne suis pas très attaché à cette idée qu'on a des mots qu'on peut juste utiliser comme on veut. Donc, je voulais juste essayer de clarifier d'où vient ce mot et donc quel sens on devrait ou on peut utiliser. Donc, Michel Morange, que je pensais serait là, mais qui n'est pas hasard et pas là. Michel, il dit que l'épigénétique est venue pour répondre à l'insuffisance de la génétique. Donc, il pose l'épigénétique contre la génétique et donc la révolution un peu à la française, on coupe la tête de la génétique pour le remplacer par l'épigénétique. Moi, je suis très contre cette idée. Je ne crois pas qu'il y a une révolution. Donc, je dis dès le début, il n'y a pas une révolution. Il y a une évolution. Je vais essayer d'expliquer l'évolution du mot et des concepts et pourquoi on parle de ça, pourquoi tout le monde parle de ça aujourd'hui. Donc, tellement on parle de ça, on le trouve partout. On m'a demandé il y a 2 jours qu'est-ce que je pensais de Bruce Lipton, qui est un un peu de gourou New Age de l'épigénétique. Et donc, je trouvais pas sur le web, on trouve tout. On peut même avoir du coaching, je ne sais pas si vous avez quelqu'un ici, un coach épigénétique, mais no fads, no gimmicks, no magic shakes. Epigenetic coaching is all about establishing your own goals, create blah, 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 blah. Donc, j'espère que personne n'a un épigénétique coach parce que ça c'est une arnaque. Oui. Mais j'imagine que peut-être vous avez. Est-ce que quelqu'un. Ouais, parce que est-ce que vous avez utilisé du shampoing épigénétique? Parce que c'est vrai, ça c'est pour David, que en fait, le shampoing épigénétique est la réponse pour la perte des cheveux. Donc peut-être on ne parle pas de même chose. Hein? Et donc. On va essayer d'expliquer d'où vient ce mot parce que, et pourquoi tout le monde parle de ça. Donc, pour faire ça, il faut peut-être revenir sur la génétique. Et donc, on a les difficultés de parler au quatrième jour, c'est que tout ce que j'ai dit a déjà été dit. Mais voilà, donc je vais re-mentionner Mendel que David nous a expliqué hier. Mendel est un peu le grand-père de la génétique, mais il n'a pas fait la génétique et surtout, il n'a pas étudié les gènes. Il a étudier la transmission des phénotypes, des caractéristiques. Et donc Mendel est moine à Brno en Autriche, Tchécoslovaquie, et il s'ennuie en tant que moine, et donc il fait du jardinage, et donc il croise les petits pois, et il suit les caractéristiques. Et à partir de ça, il propose les lois, il écrit un article il y a 150 ans. L'article parce que est perdu, redécouvert un peu par la communauté, par plusieurs personnes en même temps au début du XXe siècle. Et donc, comment on passe de Mendel à Mono? Et donc, juste rapidement, on passe par une série d'événements imprévisibles. Donc, que je voulais citer juste pour mentionner des choses qu'on avait un peu entendues, mais qui n'étaient peut-être pas claires. Donc, en 1905, William Johansson utilise pour la première fois le mot gène, donc propose le mot gène comme cette unité. Johansson. Et au début du XXe siècle, juste après la redécouverte des articles de Mendel, et à cette époque, le gène n'est pas, comme vous avez entendu aujourd'hui, un morceau de l'ADN. Le gène, c'est un concept d'une unité de transmission. Okay? C'est très conceptuel. Et c'est juste pour montrer que, qu'on a dit le premier jour, c'est que les mots changent leur sens. Le mot gène ne cesse pas de changer son sens. Il n'y a pas deux personnes dans cette pièce qui peuvent donner la même définition de gène, et même, comme il a dit David, demain, il y aura une autre définition de mot. Donc, elle a passé d'un concept à un objet grâce à une série de propositions. Dans les années, au début du XXe siècle, Thomas Hunt Morgan, c'est le troisième homme là, a proposé que le chromosome peut être le support physique pour cette concept de transmission. Et en 1944, une manip très jolie par Avery, McLeod et McCarthy a démontré que l'ADN était le molécule qui pouvait porter cette transmission d'informations. Il y a très peu de femmes dans cette histoire, mais en 1953 et probablement en 1952, Rosalind Franklin, avec son étudiant Gosling, ont pris une photo. Francis Crick et Jim Watson visiter le chef de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, le chef Ian Wilkins a dit, descendez en bas, je vais vous montrer une photo. Ils ont vu la photo de Rosalind Franklin. Jim Watson n'a rien compris, mais Francis Crick a compris qu'à partir de ce photo, peut-être ils pouvaient faire une prédiction de la structure. Ils sont revenus à Cambridge. Déjà, Watson et Crick, c'est un peu le hasard parce que ils étaient mis dans une pièce ensemble à Cambridge parce que personne ne voulait travailler avec eux. Et comme ils n'aimaient pas faire les manips tous les deux, ils avaient passé beaucoup de temps à discuter. Et donc, ils sont revenus à Cambridge. En 6 semaines, ils ont acheté un kit de mécano et ils ont construit un peu la structure de l'ADN. Et la grande découverte de Watson et Crick, c'est que les bases que David a montrées hier n'étaient pas facées l'une contre l'autre et pas de l'extérieur comme Linus Pauling et d'autres avaient proposé. Et donc, on a la prédiction de structure. Et ce structure est important, hein, pas parce que c'est une hélice, mais parce que c'est double, parce qu'elle est complémentaire. Et cette complémentarité d'information donnait une théorie, une hypothèse pour expliquer l'hérédité, parce que quand les deux brins de l'ADN peuvent tous les deux contenir l'information complémentaire, on peut expliquer la division cellulaire et la transmission d'une cellule à deux cellules filles. Et la contribution de Monod avec François Jacob était d'expliquer comment cette information génétique était transcrite et traduite en protéines, okay, pour laquelle il a eu le prix Nobel aussi. Voilà. Rosalind Franklin n'a pas eu le prix Nobel parce que même si son article était publié dans le même en avril 53 en Nature dans le même issue, mais parce qu'elle a le même numéro, mais si, elle est décédée d'un cancer du sein, et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas eu le prix Nobel. Donc, Watson et Crick, ça c'est avec la structure que vous pouvez voir au Science Museum en Angleterre. J'étais l'été dernier avec mes enfants, et donc le modèle est là-bas. Et donc, Francis Crick, à partir de cette structure, a proposé un chemin, un paradigme pour le transfert d'informations de l'ADN à l'ARN et l'ARN à protéines. Et c'est les protéines qui sont les sous-machines qui font les machines de la cellule. Et il appelait ça, avec toute la prétention britannique, The Central Dogma of Molecular Biology. Et donc, que quelques années plus tard, en fait, il était un peu questionné parce qu'on a trouvé, Temin et Baltimore ont trouvé Reverse Transcriptase, qui est une enzyme qui est capable de transférer l'information de ARN à l'ADN. Et donc, Francis Crick était obligé d'écrire un deuxième article en Nature pour expliquer qu'il avait raison parce que l'information passait jamais du protéine à l'ADN. Et donc, pour justifier un peu, et comme c'est écrit là-bas, is likely to prove a considerable oversimplification. Mais cette paradigme était très, très dominant pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Et juste pour ressouligner ce qu'ils ont dit les autres biologistes, c'est que ADN, ARN, protéines, donc on passe de génotype à phénotype. Et donc, pour comprendre le phénotype, c'était très simple. Il fallait connaître le génotype. Et donc, par une série de propositions, on avait une capacité de séquencer l'ADN et finalement de séquencer le génome humain pour avoir un génotype humain, pour comprendre le phénotype humain. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séquencé, en fait, il y avait deux projets, un projet privé et un projet public. C'était le Human Genome Project, l'autre c'était Celera Genomics avec Craig Venter, et donc deux articles qui étaient publiés par hasard la même semaine, un dans Nature et l'autre dans Science au début du siècle, et donc 3 milliards de lettres pour à peu près 3 milliards de dollars, et on avait, comme il a dit hier David, The Book of Life. Donc aujourd'hui, on passe à un stade où on séquence les génomes, comme elle a dit Alessandra hier, avec une vitesse et avec un prix très abordable, à peu près 1000 dollars par génome. Et donc, on a accès à le Book of Life, notre propre génotype. 3 milliards de lettres, c'est les nucléotides. A, G, C, T, dans un ordre, on appelle cet ordre le séquençage du génome. Maintenant, regardez la personne à côté de vous. Regardez la couleur de ses yeux, le forme de son nez, la taille de ses oreilles. La différence entre vous et la personne à côté est moins qu'une personne du génome. 3 millions de lettres. Hasardeux, donc les 3 millions de différences entre vous et les personnes à côté de vous. Okay? Qui veut dire que vous avez 2 milliards 997 millions de lettres en commun. Okay? Donc, qui est juste dans le nom de. Et c'est ça qui vous rend unique, c'est ce petit pourcentage du génome qui est différent de la personne à côté de vous. Et tout ça, en fait, vous avez deux génomes. Vous avez un génome maternel et un génome paternel. Donc, une qui est venue par le sperme et l'autre par le oocyte de vos parents. Et la combinaison hasardeuse de ces deux génomes, donc ça, c'est le génome maternel qu'on peut savoir parce qu'il y a deux chromosomes X. En bas à droite, c'est le chromosome X. Paternel, vous avez un chromosome Y, le petit truc là qui n'est pas très important, mais à côté de cette grande X, donc chaque sperme peut avoir un de chaque de ces chromosomes, donc soit un Y, soit un X, donc c'est vraiment le hasard laquelle vont rencontrer pour donner cette mélange. Donc vous êtes un mélange par hasard entre votre mère et votre père, et comme chaque gamète va avoir un choix de chromosome aléatoire, plus pendant la méiose, donc je ne vais pas rentrer en détail, mais il y a des petits changements qui ajoutent, plus les mutations qui sont des erreurs de réplication, les erreurs, si vous voulez, les accidents de réplication qui vont être incorporés. Donc, c'est pour ça que chacun est unique avec des traits, des caractéristiques qui viennent de père ou de mère, que des fois on les voit clairement, des fois on ne voit pas. Mais chez mes enfants, c'est, en tant que père, on voit, il y a des choses chez mes enfants qu'on voit clairement. Et donc, mon beau-père dit que mon fils a son nez. Et j'ai dit, mais comment vous expliquez ça? Il dit, mais ça, c'est la génétique. J'ai dit, mais il n'y a pas un gène pour un grand nez. Ça n'existe pas. Donc, mais on voit les traits. En tant que père, en fait, la génétique est magnifique quand on voit les enfants. Chacun a un mélange unique de moi et mon épouse. Mais comme on a aujourd'hui un accès relativement pas cher à ce séquençage, on peut trouver les différences, trouver ces accidents et produire la susceptibilité aux maladies. Et donc, c'est ça qu'on a promis avec le Human Genome Project, c'était, à partir de séquençage, de résoudre beaucoup de problèmes de santé. Et on a fait des grandes promesses qu'on était conscient à l'époque que ce n'était pas vrai. Et aujourd'hui, on est très confronté par les difficultés de produire à partir de cette séquence. Mais on a vendu cette histoire. C'est tellement bien vendu que ça a entré dans le grand public. Et on a aujourd'hui, si vous n'avez pas 1 000 $, pour 100 $, vous pouvez faire une analyse de votre ADN. Donc, il y a toute une série de boîtes plutôt américaines qui proposent une analyse génomique et c'est ce qu'on peut appeler recreational genomics. Donc, c'est la génomique, pas dans le labo, mais à la maison. Pour 100 $, ils vous envoient un kit, vous crachez dans le kit, vous envoient l'échantillon et ils vont vous donner une analyse de votre ADN. En fait, aujourd'hui, ils ne font pas un séquençage, ils font un échantillonnage de ces 3 millions de lettres, ils vont regarder quelques-uns. Et à partir de ça, ils ne vous disent rien, en fait. Et donc, en plus, sachez que c'est illégal en France de faire ce genre de choses. C'est très problématique, ce chose. Et ce qui est frappé, c'est qu'il n'y a aucune réglementation. Donc, n'importe qui peut envoyer n'importe quoi. Vous pouvez envoyer l'ADN de vos enfants. Vos enfants peuvent envoyer votre ADN. Et donc, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé, qui a dit qu'il a fait au début, et comme maintenant la technologie est mieux, il a fait une deuxième fois. Et donc, il a eu une email pour dire, vous avez un frère jumeau. Mais ce n'est pas un frère jumeau, c'est lui-même. Donc, mais bon, mais les gens sont en train de faire ça. J'ai beaucoup d'amis qui sont pour découvrir. Et donc, aujourd'hui, pour les raisons réglementaires, ces boîtes ne peuvent pas vous dire quelque chose sur la santé. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est si vous avez un pourcentage de vos origines. Et comme les Américains sont très obsédés par leur ancestry, leur héritage culturel, donc tous les Américains veulent savoir qui sont.
On dit leur ascendance.
Ascendance. Merci. Donc, donc j'avais rencontré une femme une fois qui m'a dit, j'ai appris que je suis 15% juif. Ça veut dire quoi d'être 15% juif et 5% irlandais? Bon, c'est relativement amusant aujourd'hui. Juste pour vous dire, la fondatrice de 23andMe est l'ancienne femme de Serge Brunet, qui est le directeur de fondateur de Google. Donc là, quand vous commencez à comprendre, c'est le début d'une Facebook génétique. Et on a vu les dérives de Facebook. Donc, on va voir les dérives de ce genre d'outils. Mais bon, ça montre que les gens sont très attachés à cette idée que l'ADN peut prédire, peut me dire quelque chose sur mon identité. Bon, on peut revenir. Et Mono a dit. On comprend tout. Dès qu'on comprend une bactérie, on comprend l'homme. Donc, c'est le même système pour transférer l'information. À peu près en même temps de la publication des séquences des génomes. Et donc, une des premières génomes, c'était le Levio. Ouais, voilà. Premier génome eucaryote, non, qui a été fait.
C'était pas
Voilà,
plutôt
voilà,
eucaryote.
voilà, qui a été fait par Bernard. Donc, à peu près en même temps, on commence à voir dans la littérature scientifique, des exemples où génotype égale pas phénotype. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples. C'est le pyloic variant de Linaria. Donc, c'est chez les plantes, ces deux fleurs ont le même ADN, exactement le même génome, mais pas les mêmes formes. La même chose pour ces deux tomates. La même chose pour ces six souris. Donc, les six souris-là ont le même génome, mais clairement pas exactement le même phénotype. On passe de yellow à goatee. Donc, je vais revenir. Et même le processus de clonage. Donc, clonage, je préfère rester avec le terme technique qui est somatic cell nuclear transfer, qui est on prend un noyau, donc on prend l'ADN d'un individu et on met dans un œuf, un ovocyte sur lequel on a enlevé l'ADN. Donc, on sait exactement quel est le patrimoine, l'information génétique qu'on met dedans. Et on voit le progénie. Donc, c'est ça qu'on appelle un clone. C'est une copie génétique. Et donc, on a fait ça aujourd'hui avec toutes les espèces, à part l'espèce qui nous intéresse le plus, mais avec toutes les autres espèces. Et donc, ça, c'est un exemple qui a été fait avec les chats. Et comme il vous a montré, David, il y a le chat, le chat calico. Et donc, ça, c'est un clone. Donc, elle s'appelle Copycat. C'est une copie et c'est un clone de l'autre. Et on voit, pour les raisons que David a expliquées hier, que le patron des couleurs n'est pas la même parce qu'il y a une inactivation aléatoire du chromosome X sur laquelle porte la couleur dans le pelage du chat. Et donc, c'est un clone génétique, mais pas identique. Okay? Mais on n'a pas besoin de faire les manips si compliquées que le clonage. Vous êtes tous monoclonal. Vous êtes tous dérivés d'un seul clone, une seule cellule, qui est la fusion entre le sperme et l'ovocyte et l'œuf. Et donc, à partir de cette cellule, la première cellule va diviser deux fois, 4, 8, 16. Et donc, toutes vos cellules ont le même génome, les deux génomes. Okay? On sait, donc le problème biologique, c'est que toutes les phrases sont faux. Donc, je sais que ce n'est pas le cas. En fait, on dit que toutes vos cellules ont le même génome, mais on sait que ce n'est pas le cas. Oui, pourquoi? Parce que vos lymphocytes, ils ont, comme quelqu'un a déjà parlé, les lymphocytes vont faire un editing pour changer les anticorps. Donc, les lymphocytes ne sont pas pareils. Et après, vous avez les gamètes, donc ils ne sont pas pareils. Et après, peut-être il y a plein de changements. Mais en principe, vous êtes monoclonal, toutes vos cellules sont dérivées du même cellule. Et donc, le zygote va donner deux cellules après quatre. Et on va avoir ce qu'on appelle une différenciation cellulaire pour finir avec des centaines de types cellulaires, tout à partir du même ADN. Et donc, comment on peut avoir les phénotypes stables cellulaires à partir du même ADN? Donc, même dans vous-même, vous avez les mêmes questions. Comment, à partir du même génotype, on peut avoir toute une série de phénotypes héritables et stables? Et donc, l'épigénétique vient pour nous aider à comprendre ce problème. Comme je vous ai dit, sperme, œuf, un manquante aléatoire pour donner une seule cellule, donc deux cellules qui donnent une cellule, donc une fusion, qui va après diviser en deux cellules, après quatre, etc. Et après, un peu plus tard, ces cellules vont différencier, mais comme je crois c'est Giuseppe qui a dit hier, dès qu'il y a une division cellulaire, les deux cellules ne sont pas identiques, même s'ils ont exactement le même génome. On peut avoir les événements très rares où, à partir de cette première division, chaque cellule va diviser lui-même pour donner un embryon. Okay? Et donc, comme ça, on peut avoir deux jumeaux. Donc, c'est même un hasard ce qui arrive à, c'est quoi, 3% de temps. Peut-être non, peut-être moins pour les monozygotes. Donc, on peut, oui, c'est moins. On peut avoir deux enfants qui appartiennent de même cellule et qui ont exactement le même patrimoine génétique. Okay? C'est une histoire très personnelle parce que moi j'ai un clone. Donc j'ai un jumeau monozygote, donc un vrai, comme vous dites en français. Donc c'est lui à droite qui est. Et donc, depuis toujours, je me. C'est peut-être pour ça que je fais l'épigénétique. Ces questions d'identité sur le même génome. Donc, on est genetically identical, mais on n'est pas pareil. On n'est pas exactement pareil. Donc, comment on peut avoir le même génome, mais pas avoir la même identité, le même phénotype? Juste pour l'histoire, il est professeur de génétique aux États-Unis. Donc, ça, c'est clairement une caractéristique. Un phénotype génétique. Et juste pour vraiment, pour divertissement, on est tous les deux paires de jumeaux. Okay? Et donc, avant que vous me demandiez est-ce que c'est génétique, c'est vraiment le hasard, parce qu'il n'y a pas une génétique de jumélité, mais on est tous les deux. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'aime bien ce sujet. Ouais. Et en plus, c'est des faux jumeaux. Okay? Okay? Et un autre hasard, c'est qu'on a, par hasard, deux œufs qui sont lâchés par la femme en même temps. Okay? Et donc, mais en fait, c'est encore plus compliqué que ça, parce que moi, c'est moi à gauche et c'est mes deux enfants. Et donc, avec l'âge, la femme augmente la possibilité d'avoir deux œufs en même temps. Et donc, par hasard, tous les deux étaient fertilisés par les spermes des femmes, un avec un Y, un avec un X. Et c'est pour ça, moi, j'ai un fils et une fille. Mon frère, c'est un peu plus compliqué parce que c'est les enfants de fertilisation in vitro. Donc, ils étaient. Donc, c'est vraiment pas génétique. Comme, mais bon, ils sont magnifiques tous les quatre. Voilà. Donc ça, c'est moi et mon frère. Et c'est quelque chose qui est très troublant. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de vous quand vous étiez petit. J'imagine tout le monde a vu. Mais moi, ce qui est troublant pour moi, je ne sais pas laquelle est moi. Donc, parce que quand on était petit, on me semblait beaucoup. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avec l'âge, on devient de plus en plus différent. Okay? Donc, moi, je sais, c'est moi à gauche. Et donc, comment ça qu'avec le même génome, on peut devenir de plus en plus différent? Donc, je vais revenir sur ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'épigénétique. L'épigénétique, ça nous donne un cadre intellectuel pour réfléchir sur ces idées. Et donc, si on passe de Mendel à mono au génome en 20e siècle. En même temps, il y a une émergence de ce monde de épigénétique. Si Mendel est le père de la génétique, le père de l'épigénétique, c'est Conrad Waddington. Et ce n'est pas nouveau. Je demande toujours à mes étudiants, ils disent que c'est très nouveau. Pour eux, nouveau, ça veut dire plus ou moins il y a 2 ans. Oui. Et donc, en fait, Waddington, c'est un contemporain de Waddington. Donc, Conrad Hal Waddington. C'est au même moment de Monod. En fait, il est venu à Paris pour voir François Jacob et Jacques Monod. Et il était au même moment de Crick et Francis Crick et Jim Wilson. Et en fait, Conrad Waddington a même fait un stage plus ou moins postdoctoral, chez Thomas Hunt Morgan. Donc, il est parti chez Morgan pour apprendre la génétique des mouches. Voilà. Mais, donc, l'épigénétique est née au milieu du XXe siècle et au même moment que Monod. Et on a fait le même type de progression. Et aujourd'hui, on parle des publications, pas de génome, mais aussi de l'épigénome que David a parlé un petit peu hier. OK, donc c'est... Donc, qui est Conrad Waddington? Conrad Waddington est intéressé par le développement et l'embryologie. Et son souhait, c'est de comprendre les relations entre génotype et phénotype. Et donc, il propose l'épigénétique pour essayer de lier génétique et épigénétique, et aussi de génotype et phénotype. Et aussi, pendant le début du XXe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui « developmental biology », la biologie du développement, et la génétique, c'était deux communautés qui ne parlaient pas. Oui, il y avait Monod et François Jacob et Jacques Monod à Pasteur qui travaillaient sur les bactéries, et après, il y avait tout un mouvement de développement. Et donc, Conrad Waddington voulait les amener ensemble et donc proposer que pour ça, il fallait une nouvelle discipline. Et donc, il a proposé l'épigénétique. Donc, le langage est très compliqué. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté un S qu'on ne voit pas en français. Donc en français, l'épigénétique, c'est la discipline et l'adjectif. Okay? En anglais, epigenetics est la discipline. Et donc, ce qu'il a proposé, c'est le mot epigenetics comme discipline, qui serait une nouvelle discipline de biologie pour étudier les relations entre génotype et phénotype. Et ça, c'est des années 40. C'est Waddington qui a proposé l'épigénétique comme une discipline. Et donc, malheureusement, une des complexités, c'est que ça ne se voit pas en français. Et donc, l'adjectif et le nom ne sont pas. Et donc, il n'a pas l'épigénétique, ce n'est pas l'épi grec au-dessus de génétique. Ce n'était pas vraiment ça. Ou c'était un peu ça, en fait. Conrad Waddington, c'était un jeu de mots. C'était génétique et l'épi, mais aussi épigénétique comme une discipline qui sort de l'épigénèse. Okay? L'épigénèse, c'est une idée aristotélienne que la forme arrive par une interaction avec le temps entre les composants et qui était placée en face de notre proposition qui était ce qu'on appelait preformationism, que tout était préformé et que même peut-être dans le sperme, qu'il y avait un petit homme et donc le développement, l'embryologie, c'est juste la croissance parce que la forme déjà existait. Voilà, mais c'est important que l'épigénétique sorte de l'épigénèse et donc devienne une discipline en soi pour expliquer les relations entre phénotype et génotype. Comme on a eu le premier microscope et on regardait les spermes, dans les spermes on voyait l'ADN condensé et comme ça bougeait avec le premier microscope, les gens disaient, regardez, il y a on voit les hommes dans les spermes. Donc, voilà. Et donc, la femme était le réceptacle, voilà. Juste pour nourrir. Mais ce qui est important, c'est que la forme est expliquée parce que tout est préformé. S'il n'est pas préformé, d'où vient la forme? Okay? Et donc, ça, l'épigénèse. Et ça, c'est très compliqué à conceptualiser. Et donc, je crois que beaucoup de chercheurs en biologie ont une idée très préformiste que tout est le programme génétique, que tout est écrit, okay, que la forme est écrite. Et donc, ce que j'ai dit à mon beau-père, il n'y a pas un gène pour la forme du nez. Donc, ça, c'est un débat de Moyen-Âge, mais qui reste quand même, qui reste en partie. Et donc, j'étais frappé sur page 84 de mon édition de Chance and Necessity. Mono utilise le mot épigénétique. J'étais très surpris parce que ça fait longtemps que je ne veux pas lire. Et donc, il parle d'un processus épigénétique. Okay? Mais il utilise complètement. Et donc là, il utilise comme adjectif de l'épigénèse. Donc, il fait aucun. Donc, c'est en 71. Donc, il ne fait aucun référence à Waddington et ce domaine de l'épigénétique. Mais il propose que comme les protéines forment les complexes protéiques à partir de cette séquence. Et donc, tout ça est spontané. Et donc, l'information est dedans. Donc, il parle d'une épigénèse protéique. Je n'ai jamais entendu, en fait, on ne parle pas de l'épigénèse. Donc, comme il a dit David, chacun peut l'utiliser comme il veut. Et donc, pour lui, l'épigénétique, c'est la construction d'un complexe protéique. Et donc, il parle d'allostérie, qui est son truc aussi. Et donc, en plus, il dit que, comme il a tout expliqué par l'épigénèse de protéines, que ce débat entre preformationist et l'épigénésiste is reduced to a quibble over words. Donc, il dit que ça n'a aucune importance et que l'information nécessaire est présente, mais pas exprimée dans les constituants, qui est les protéines, et qu'il y a une construction épigénétique de la structure. Donc, c'est une création, c'est pas une création, mais c'est une révélation de quelque chose qui est dedans. Donc chacun utilisé comme il veut. Je veux revenir à cette métaphore qui a déjà été présentée par Amaury et après par David, parce que je crois que c'est important. Donc c'est le dernier dessin de Waddington du paysage épigénétique. Avant, il y avait plusieurs. Il a dessiné plusieurs fois. En fait, le premier, c'était par un artiste anglais qui s'appelle John Piper. C'était un peu la montagne. Et après, il a retravaillé. Et donc, ça, c'est la dernière version qui est dans le Structure of the Gene, qui a été publié en 1952, je crois. Et c'est quoi l'idée? C'est que tout en haut de la montagne est un peu le cellule souche, le cellule, le zygote, et qu'il est pluripotent. Il peut donner tous les types cellulaires, et donc le trajectoire sur la montagne va donner en bas son identité différenciée, donc hépatocytes, neurones, lymphocytes, etc. Okay? Et donc, le développement des tissus et donc de la forme émerge par le trajectoire de la cellule, aléatoire au début, mais comme il rentre dans un chemin, il est un peu engagé. Donc aujourd'hui, on dirait committed precursor. Donc il devient un peu engagé dans un programme pour produire, pour finir avec un phénotype cellulaire en bas. Et donc c'est le processus qu'on appelle, que lui appelait canalisation. Donc ce qui est important, c'est que ça intègre aussi l'idée du temps. Parce que pour les biologistes, le temps est difficile à intégrer. Et donc, c'est le temps et la trajectoire et l'impact, l'interaction entre le génome dans la cellule, donc l'intrinsèque, et le paysage qui va donner l'identité en bas de la montagne. Et donc, il dit lui-même que c'est un peu vague, mais il propose que c'est une conception, une métaphore mentale pour réfléchir sur ça. Après, ce mot évolue. Donc, quelques années plus tard, David Nanny, qui travaille sur les ciliates, et donc propose l'idée qu'il peut avoir une mémoire de cette utilisation de génome qui peut être transmise. Donc, l'idée d'une transmission de mémoire qui n'était pas vraiment dans Waddington. Et après, Robin Halliday propose redéfinir épigénétique comme l'étude de l'expression des gènes qui est dans les cellules différenciées, qui est transmissible via la mitose et peut-être même via la méiose, et qui donne le patron d'expression des gènes. Donc, une idée d'une héritabilité somatique d'une information génétique et, via les divisions cellulaires. Et c'est ça, plus ou moins, la définition qu'on a aujourd'hui. L'autre chose qu'il a proposé, Waddington, c'est que, et vous avez déjà vu, que derrière la montagne, il y avait une série d'actions, les gènes et les protéines qui pouvaient, et donc c'est répondre à la question, qui pouvaient déterminer un peu le paysage. OK, donc quels sont ces mécanismes? Donc, Waddington ne connaissait pas. Aujourd'hui, on connaît énormément de mécanismes épigénétiques, donc comme David a expliqué un petit peu hier. Le plus clair, c'est la méthylation de l'ADN. Donc, le cytosine, donc un des lettres AGCT, le C, peut être modifié par l'ajout d'un groupe méthyl, donc CH3, et ce C méthylé a une fonction un petit peu différente d'information que le C lui-même. C'est un peu comme les accents en français. Oui. On passe de gène à gène. Oui. On change le sens sans changer les lettres. C'est exactement ça. Et donc, comme le C est méthylé, surtout au promoteur d'un gène, donc à l'interrupteur avant un gène, on va changer l'expression. Et on peut éteindre l'expression d'un gène par la méthylation de son promoteur. Tous ces exemples d'une différence, une plasticité phénotypique à partir du même génome peut être expliqué par les différences de méthylation. Donc, c'est cet accent sur le C dans le promoteur du gène. OK. Donc, il y a un autre exemple que la biologie est plein d'exemples jolis. On a entendu parler des tortues. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est les abeilles. Donc, en Angleterre, donc je suis britannique, en Angleterre, on a une seule reine. En fait, elle est je ne veux pas dire qu'elle est née reine, mais elle est reine parce qu'elle est la fille du roi. Okay? Mais chez les abeilles, tous les abeilles sont nées pareilles. Okay? Donc, la reine des abeilles émerge par hasard, pardon, à cause de la nourriture de la gelée royale. Okay? Et donc, on a essayé de voir quel est le mécanisme par lequel la gelée royale, donc un input nutritionnel peut impacter le phénotype. Et ce que les gens en veulent, c'est que ça peut être expliqué par la méthylation. Okay? Donc, la méthylation de l'ADN induite par le gel royal va terminer par ce phénotype de reine. Donc, je ne sais pas ce que notre reine mange pour le petit-déj, mais vous avez vu, en Angleterre, en fait, il y a deux façons de devenir reine. On peut être né reine ou on peut interagir avec l'environnement. Voilà. Donc, voilà. Mais on va voir si on peut devenir une veine ou non. Voilà, on va voir avec le temps. Et donc, ça, c'est. On me vient à des six souris. Je vous dis, c'est six souris ont le même génome. Et donc, les différences entre ces six souris sont expliquées par une expression d'un gène ou qui donne les mélanocytes qui est important pour la couleur du pelage. Mais devant ce gène, il y a un promoteur et ce promoteur peut être méthylé ou non. Et l'état de méthylation de promoteur explique ces différences de couleur. Okay? Et donc l'équipe de Jertel a dit, est-ce qu'on peut jouer avec ça, avec la nutrition? Donc ils ont pris une souris gestante, ils ont donné à la souris gestante du vitamine B12, du folic acid. Et ce qu'ils ont vu, c'est que le folic acid induisait une méthylation du promoteur et la méthylation de ce promoteur induisait un changement de phénotype, on passait de yellow à agouti. Donc encore une fois, un environnement nutritionnel, un changement d'expression de gènes, un changement de phénotype. Donc pourquoi folate? Parce que le folate est important pour la méthylation, le métabolisme de méthionine, et méthionine est nécessaire pour produire S-adenosylmethionine, qu'on appelle SAM, qui est le donneur méthyl. En fait, il faut que le méthyl, le donneur, il faut que le groupe méthyl vienne de quelque part, et donc il vient de SAM, et le SAM vient de méthionine, et le méthionine vient de folate. Donc, si on change le folate, on change la quantité, la concentration de SAM, qui va changer la méthylation, qui va changer l'expression des gènes, qui va changer le phénotype. Donc, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qui commence à être expliqué au niveau moléculaire. Voilà. Et donc, chez l'homme, est-ce qu'on peut faire les mêmes choses? Bon, faire ce manip chez l'homme est difficile, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut trouver les moments dans l'histoire de l'homme où il y a eu une carence de nutritionnelle. Et donc, l'exemple le plus étudié, c'est le Dutch Hunger Winter, où il y a toute une ville en Hollandais qui était siégée par les Allemands, par les nazis, et donc il y avait une carence de nutrition. Et donc on peut regarder les gens qui étaient soit conçus, soit nés pendant cet hiver, et regarder la méthylation de leur ADN, et on voit effectivement que insulin-like growth factor, donc un facteur de croissance, peut avoir une différence de méthylation pour les enfants qui étaient nés à cette époque. Et aujourd'hui, on peut voir même les petits-enfants de ces gens. Donc, il y a plein de questionnements. On va revenir dans les questions si ça vous intéresse. OK, donc quelque part, le régime alimentaire, qui est un type d'environnement, peut impacter le comportement du génome. Donc, ça, c'est Lewis Carroll, Alice in Wonderland. Voilà. OK. Et chez les jumeaux, est-ce que l'épigénétique peut-être expliquer ces différences de jumeaux? Et donc, la question a été étudiée par une équipe espagnole qu'ils ont pris les jumeaux jeunes et les jumeaux plus âgés, ils ont juste regardé la méthylation de l'ADN, juste la quantité globale de méthylation de l'ADN. Et ce qu'ils ont vu, c'est que quand les jumeaux étaient petits, le niveau de méthylation était très, très similaire. Et avec l'âge, ils ont vu que les jumeaux devenaient de plus en plus différents dans la méthylation de l'ADN. Comme la méthylation de l'ADN va impacter l'expression des gènes, c'est un moyen peut-être d'expliquer pourquoi, avec l'âge, avec l'impact, l'interaction avec l'environnement, les jumeaux deviennent de plus en plus différents. Et la même chose, un peu ce qu'il a dit David hier pour la chromatine. On a deux mètres d'ADN dans un noyau de quelques microns. Comment ça se fait? Ça se fait par un système. Donc, c'est juste pour vous donner une image. J'espère qu'il y a pas des, il y a des Italiens. Je m'excuse pour les Italiens. C'est comme 15 km de spaghettis dans une balle de basket. Je ne sais pas pourquoi on veut faire ça, mais c'est ça l'échelle de ce problème. Et donc, c'est un problème d'organisation dans l'espace par les histones, comme il expliquait hier David. Et donc, le génome peut avoir les régions très compactées et donc peu accessibles et donc pas utilisées, et les régions qui sont plus ouvertes, plus accessible et donc plus utilisé. Si chaque cellule fait ça, on a une information spatiale qui peut expliquer un peu le phénotype et donc le problème de... Et donc ça, c'est expliqué au niveau moléculaire par la modification dans les queues des histones. C'est le nucléosome et l'ADN qui tourne autour. Et donc, on peut poser la même question. Est-ce que ces modifications des histones, l'acétylation, la méthylation, des modifications des histones sur laquelle l'ADN tourne, est-ce que ça aussi peut être modifié pendant la vie? Et c'est le même type de conclusion. Les jumeaux jeunes on a le même niveau d'acétylation des histones. Et avec l'âge, on voit les différences d'acétylation des histones qui va impacter l'expression des gènes, qui va impacter les phénotypes. Le dernier point qui est important, donc ça c'est quelque chose que peut-être vous avez vu en licence ou peut-être au lycée, peut-être non. Quand moi j'étais petit, on était très fiers de ces réseaux, pas génomiques, mais les réseaux de métabolisme. Okay? Et pourquoi je montre ça? C'est parce que le métabolisme du glucose et d'autres métabolismes dans les cellules va générer des molécules que vous avez un vague souvenir de vos études, de ATP, de acétyl-CoA et de SAM que je viens de vous montrer. Et pourquoi je montre ça? C'est parce que le groupe acétyl, pour acétyler les histones, il faut qu'il vienne de quelque part. Il vient d'acétyl-CoA qui vient de glycolyse, oui. Le ATP qui va phosphoryler les résidus dans les histones et impacter l'expression, il faut qu'il vienne de quelque part. Il vient du cycle de Krebs, oui. Et le SAM vient du métabolisme de méthionine. Donc, il y a un lien très moléculaire, très, très précis entre nutrition, métabolisme, intermédiaire du métabolisme et l'availability de ces produits pour après modifier les génomes et modifier l'expression des gènes. Donc, c'est pas si mystérieux que ça et on a les outils aujourd'hui. Et donc, l'environnement commence à la naissance et il passe à tout moment. Oui, donc on peut, et comme ces modifications sont potentiellement réversibles, on va avoir mémoire de tous les événements, toutes les interactions. Je me suis demandé si ce n'est pas peut-être notre papillon brésilien génomique. C'est que quelque part, il y a un petit événement moléculaire précoce qui peut avoir peut-être un grand impact, positif ou négatif, plus loin, plus tard dans la vie. Je vais passer. Et donc, ce qu'on peut aujourd'hui, c'est qu'on peut décrire la montagne comme une série d'événements moléculaires. Et donc, à n'importe quelle position sur la montagne, on peut décrire l'état du génome par l'état de ces modifications. Okay. Dernier point. Est-ce qu'on peut manipuler ce paysage pour. Quelle est la réversibilité? Est-ce que vous avez. Une question qui était posée. Donc, est-ce qu'on peut manipuler un peu, est-ce qu'on peut comprendre les contraintes chimiques et moléculaires dans cet environnement pour impacter l'influence de le paysage sur le comportement des génomes pour parler demain d'une médecine épigénétique et des drogues qui peuvent. Bon, ça, on peut discuter si vous avez des questions. Et donc, pour réintroduire l'hasard, on a deux types d'hasard. On a l'hasard génétique que Mono a parlé, qu'il y a des mutations et des organisations, des combinaisons aléatoires avant, au début de la vie, au moment de fertilisation. Et après, pendant toute la vie, il y a toutes les interactions hasardeuses, même aujourd'hui, on a des interactions aujourd'hui de hasard entre nous et tout l'état de la planète qu'on a parlé beaucoup pendant ce colloque. Et donc, cette combinaison d'un hasard génétique et un hasard épigénétique donne peut-être une explication de l'identité du vivant. Je vais arrêter là. Bravo, bravo.